notre Bible dans la première épître aux Corinthiens. Nous retrouvons cet épître après quelques semaines dans d'autres passages, puisque c'était l'époque de Pâques. Nous avons parlé de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous revenons ici dans la première épître aux Corinthiens. Et ce matin, nous allons voir un chapitre entier. Mais n'ayez crainte, il est plutôt court, le chapitre 8. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 8. Suivez avec moi alors que je lis les versets de ce chapitre, du verset 1 jusqu'à la fin. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces instants que nous passons dans ta parole, que tu nous éclaires, Seigneur, que nous ne restions pas indifférents face à la vérité de ta parole et que tu reçois tout l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans notre vie. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, comme nous avons déjà vu dans cet épître aux Corinthiens, nous avons l'impression d'entendre un côté d'une conversation. Et lorsque nous avons cela, c'est un peu frustrant. Si vous lisez une lettre comme celle-ci, et on n'a pas l'autre partie. Ou bien si nous entendons une conversation, et on a juste une personne, un seul côté de la conversation, c'est un peu frustrant. Néanmoins, nous pouvons obtenir certaines données, savoir certains faits sur l'ensemble de la conversation, même si nous n'avons qu'un seul côté. Et c'est ce que nous avons ici, tout comme avec le chapitre 7, qui traitait surtout du mariage, du divorce et autres. Ici, au chapitre 8, le problème, apparemment, à Corinthe, c'était cette question de viande sacrifiée aux idoles. Et il paraît que les chrétiens de Corinthe avaient écrit à Paul, entre autres, pour savoir si on pouvait manger de ces viandes, s'il fallait, qu'est-ce que cela pourrait apporter. Et il dit, au verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, les Corinthiens avaient écrit à Paul, voulaient savoir son avis, parce qu'ils savaient que Paul avait quand même une grande connaissance, était dirigé par Dieu, et voulaient savoir comment eux, ils devaient se comporter. Et déjà, c'est quelque chose sur lequel, c'est un point sur lequel nous n'avons pas encore vraiment mis l'accent dans cette série de messages dans les Corinthiens, mais j'aimerais prendre c'est que les chrétiens, malgré tous leurs erreurs, malgré le péché parmi eux, malgré leur orgueil, malgré toutes ces choses qui n'allaient pas chez eux, comme on dit, une église a un problème qui devait être repris et tout, nous voyons que au moins certains d'entre eux avaient cette sagesse de pouvoir d'aller chercher ailleurs des réponses à des questions qui les perturbaient, des questions pour lesquelles eux, ils n'avaient pas trouvé de réponse. Et c'est vrai que dans pas mal de domaines, nous voyons que la plupart des chrétiens à Corinthe ont manifesté leur orgueil, et d'ailleurs, Paul va traiter de cela dans ce chapitre même, mais au moins certains d'entre eux, ils avaient compris, nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'être conseillés, nous avons besoin d'être instruits. Nous n'avons pas tout ce qu'il faut en nous, non. Nous reconnaissons qu'il y a un manquement chez eux et ils écrivent à Paul. Et déjà, quel exemple pour nous? Personne ici ne peut prétendre avoir toute la vérité. Bien sûr, nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Mais n'est-il pas vrai que par moments, nous faisons face à des situations où nous ne savons pas trop comment agir? Nous ne savons pas quel conseil apporter. Nous ne savons pas peut-être quel verset utiliser. Et devant ces situations, quelle est notre démarche? Est-ce que nous essayons de dire tout simplement ce qui nous vient à l'esprit? Ou est-ce que nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide? Et est-ce que nous allons voir un chrétien plus mûr, plus instruit, qui pourrait nous aider? Est-ce que nous prenons le temps de chercher conseil auprès de frères et sœurs plus mûrs dans la foi chrétienne? Vous savez, pour moi-même, parfois, je fais face à des choses où je ne sais pas trop quoi faire. Et dans ces moments, vous savez ce que je fais, je prends le téléphone et j'appelle un autre pasteur. Je prends le téléphone et je parle avec un frère pour dire, voilà, telle ou telle situation, est-ce que tu peux me conseiller? Je ne prétends pas avoir toutes les réponses en moi-même. Mais Dieu, par sa parole, bien sûr, nous révèle certaines choses. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne cherche jamais le conseil ailleurs. Et ces chrétiens de Corinthe, malgré toutes les autres erreurs, au moins, ils avaient cette sagesse de pouvoir demander à Paul concernant différents problèmes auxquels ils étaient confrontés, différentes interrogations qu'ils avaient. Et que déjà, cela soit un modèle pour nous. La prochaine fois que vous êtes face à une situation, vous avez quelque chose qui vous arrive et vous ne savez pas trop comment agir, quoi dire, quoi faire, bien sûr, priez. Il faut toujours prier, demander de la sagesse de Dieu. Mais ne nous privons pas des conseils qui pourraient être apportés pour vos frères et sœurs qui sont plus mûrs dans la foi. Alors, avec cela, revenons à ce chapitre 8 d'un Corinthiens, où Paul, effectivement, va parler de ces viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, ça c'est le point essentiel. Et tout de suite, ne plaçons pas ceci 2000 ans en arrière en disant, ça c'était pour les Corinthiens, on ne fait pas face à cela d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas les viandes sacrifiées aux idoles, donc ceci n'est pas pour nous. Au contraire. Il y a des principes bibliques à retenir ici. Donc, même si le contexte premier et le problème de base était les viandes sacrifiées aux idoles, ceci reste d'actualité aujourd'hui. Il faut en être convaincu. Alors, au verset 1, Paul va dire quelque chose qui pourrait sembler être en contradiction avec le verset 1. Alors, verset 1 déjà, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et très bien, nous avons tous la connaissance. Mais, verset 7, je sais que j'ai dit verset 3 tout à l'heure, verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Alors, Paul se trouve-t-il? Est-ce qu'il fait une déclaration au verset 1 qu'il va rectifier au verset 7. Est-ce que Paul fait une erreur? Est-ce qu'il se trompe? Bien sûr que non. verset, quand il dit « Nous avons tous la connaissance », il dit « Nous avons tous accès à cela ». Ces choses ne sont pas cachées, ce n'est pas juste pour les initiés. Non, tout le monde peut comprendre ces choses. Ce ne sont pas des choses cachées, mais au contraire des choses qui peuvent être connues. Mais lorsqu'il arrive au verset 7, et il dit, cette connaissance n'est pas chez tous. Il dit, tout le monde ne comprend pas cela. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais qu'ils ne sont pas encore arrivés à un stade de maturité. Ils doivent encore aller plus loin dans leur connaissance. Donc, même si cela est accessible, Paul reconnaît que tout le monde n'est pas au même stade spirituel. Et c'est une des premières choses que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens, au moins dans ce domaine. Il en a déjà parlé, mais il veut revenir là-dessus. Et il dit aux chrétiens de Corinthe, tout le monde n'est pas au même stade spirituel. Et nous le savons intellectuellement, n'est-ce pas? Suite à différentes choses, l'un va avoir plus de connaissances bibliques, va avoir plus de maturité spirituelle que l'autre. Peut-être une personne s'est convertie assez jeune, l'autre plus tard. Ou une personne se consacre plus à l'étude de la parole et une autre personne pas autant. Mais tout comme nous sommes à différents stades spirituels, nous pouvons faire la comparaison avec la vie physique. Nous ne ressemblons pas tous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des clones, des copies les uns des autres, heureusement d'ailleurs. Vous imaginez l'horreur. Mais nous sommes différents. Des âges différents, des arrière-plans différents, des vécus bien différents. Et Paul dit ici, oui, dans le domaine spirituel, tout comme dans tous les autres domaines, nous sommes à des stades différents. Et lorsque nous abordons les principes que nous trouvons dans ce passage, il faut se souvenir de cela. Et bien sûr, Dieu veut que chacun avance. Dieu ne veut pas que nous restions au stade où nous sommes. Mais la réalité, c'est que nous sommes au stade où nous sommes. Il faut avancer. Mais parce que quelqu'un est à tel ou tel stade, on ne devrait pas attendre à ce moment-là des choses qui sont plus haut, des choses qui vont plus loin. Donc la personne doit tendre vers cela, mais la réalité, c'est que la personne est à cet stade, à ce stade-là, ce niveau. Et au verset 1, Paul fait comprendre que, de toutes les façons, la connaissance n'est pas la chose essentielle. Il dit « la connaissance enfle ». Et il dit « il ne s'agit pas d'avoir toute cette connaissance, on pourrait avoir toute la connaissance au monde ». Ce n'est pas ça qui compte. Il dit « c'est l'amour qui édifie ». Il va revenir sur cette question dans le chapitre 13, quand il va parler de l'amour face aux différents dons extérieurs et charismes. Il dit, vous recherchez tous ces dons, toutes ces choses extérieures, vous passez à côté de l'essentiel. Non, l'essentiel, c'est l'amour. Il dit, la connaissance, et ça peut être la connaissance dans n'importe quel domaine, la science, les maths, les choses spirituelles, la connaissance dans n'importe quel domaine, si nous mettons uniquement l'accent là-dessus, là, ça va en faire. Pourquoi? Parce qu'on va se croire mieux que les autres. Il y a des choses que moi je sais que les autres ne savent pas, alors je suis mieux que les autres. Alors que l'amour édifie. La connaissance, c'est pour moi. Mais l'amour, c'est pour les autres. Lorsqu'on s'enfle, cela agit sur nous-mêmes. Lorsqu'il y a l'édification, ça c'est pour les autres. Et dans ce verset 1, Paul nous montre comment notre démarche doit être. Au lieu d'être égocentrique, c'est-à-dire centré sur moi, le ego, cela vient du mot grec, moi, je. Au lieu d'être focalisé sur moi, sur ma connaissance, sur ce que moi je fais, non, je porte mes regards vers les autres. Et à ce moment-là, je suis en train de les édifier. c'est l'amour de Dieu en nous qui va nous pousser à aller vers les autres, qui va nous pousser à aider les autres. Et verset 2, il continue en disant, non seulement les autres ont besoin de l'aide, mais nous aussi. N'oublions jamais que nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés au plus haut stade. Non, 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 nous avons encore du chemin à faire. Verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Paul dit, dans l'église de Corinthe, il y avait des personnes qui se croyaient dans le don de Dieu aux hommes. Se croyaient être vraiment quelque chose. Croyaient avoir toute cette connaissance, toutes ces révélations spirituelles, être vraiment le don de Dieu pour l'Église. On ne pouvait pas se passer d'eux. Il fallait qu'ils soient là, il fallait qu'ils soient mis en avant. Et Paul dit, non, non, non. Ce n'est pas cette connaissance qui est quelque chose. Donc, il faut se rendre compte qu'on a besoin de grandes personnes. Ces personnes dont Paul parle au verset 2, c'était des personnes qui ne pensaient pas avoir besoin de plus de connaissances. Ces personnes se sont dit, nous avons tout. Plus rien à apprendre, plus rien à gagner, nous avons tout. Vous voyez l'orgueil qui se dégage de cela, de ce sentiment. Et je suis convaincu que les chrétiens dans l'église de Corinthe qui manifestaient cela ne disaient pas ces paroles. Et pourtant, leurs attitudes montraient qu'ils n'avaient plus rien à apprendre. Que c'était eux qui apprenaient aux autres, que eux, ils étaient arrivés au stade où plus rien. Je ne peux pas aller plus haut. Je suis vraiment arrivé, je suis au sommet. Et à travers leur attitude et leurs actes, aussi leurs paroles, ils manifestaient cet esprit d'orgueil et même de mépris envers les autres. Ils croyaient tout savoir, mais en réalité, ils sont passés à côté de l'essentiel d'école. Il dit, ce n'est pas cette connaissance. On peut connaître la Bible par cœur, du début jusqu'à la fin. Si on passe à côté de l'amour que Paul le décrit ici, Paul dit, nous sommes passés à côté de l'essentiel. Et verset 3, il va amplifier cela en disant, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ce parenthèse que Paul fait entre verset 1 et verset 3, Paul dit, la connaissance est quelque chose, il ne faut pas minimiser la connaissance, mais c'est l'amour qui doit être là, c'est ça, la chose essentielle. Et il était essentiel pour Paul de comprendre avec cette idée de l'amour vis-à-vis de la connaissance, parce que cela allait lui servir de base pour la discussion par la suite. Souvenez-vous, au verset 1, hein, il voulait commencer sa discussion sur la viande sacrifiée aux idoles, mais il ne pouvait pas faire cela avant d'avoir parlé de l'amour. Parce que c'est l'amour qui doit régir toutes nos actions, toutes nos paroles, tout ce que nous faisons doit être fait par amour. Et si nous, si nous manquons d'amour, comme le chapitre 13 va nous montrer, tout ce que nous faisons, peu importe, n'importe rien. Paul déjà commence à dévoiler cela ici. Et à la fin de verset 1, verset 2, verset 3, il explique que ce soit dans ce domaine des viandes sacrifiées aux idoles ou dans n'importe quel autre domaine, c'est l'amour qui doit être en avant. Et comprenons-le, l'amour de Dieu. Parce qu'au verset 13, si quelqu'un aime Dieu, comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu? C'est uniquement parce que nous avons été aimés de Dieu. Et cet amour que nous donnons à Dieu, c'est cet amour agapé. Ce n'est pas le philéo, l'amour fraternel, ce n'est pas le mot eros, l'amour physique, charnel. Non, non, non. Ce n'est pas juste le je t'apprécie, tu me fais du bien. Non, non, c'est l'amour agapé, l'amour qui se donne. Si quelqu'un aime Dieu, et nous ne pouvons faire cela que si nous avons été aimés et le seul amour, et le plus grand amour que l'on a manifesté envers Dieu, hein, c'est cet amour agapé, cet amour qui se donne, cet amour qui agit. Et ne manifestons pas cela, comme dit Paul à la fin de verset 3, que nous sommes connus de lui. Et Jean, dans ses trois épîtres, va parler de cela. Jean chapitre 1, parle beaucoup de cet amour. Cet amour que nous avons reçu de Dieu, que nous manifestons à la fois envers Dieu et envers les autres. Et Paul parle de cela également. Il fait le lien. Et c'est avec cette base, ce fondement, ce contraste entre l'amour, entre la connaissance, pour bien expliquer aux Corinthiens comment il faut agir, que Paul va, au verset 4, entamer sa discussion sur les idoles, sur la viande sacrifiée aux idoles. Et il dit au verset 4, pour ce qui est donc de manger de viande sacrifiée aux idoles, il reprend sa phrase du verset 1, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Paul parle de la réalité spirituelle. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le témoignage de toute la Bible. Un seul vrai Dieu. J'ai discuté il y a quelque temps avec un musulman. On discutait un peu sur la Bible, sur Dieu. Et il disait, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, non, il y a un seul Dieu. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas Allah. Son grand chagrin. J'ai dit, oui, il y a un seul Dieu, mais ce n'est pas votre Dieu. Vous croyez au mauvais Dieu. Non, c'est le Dieu de la Bible. C'est le grand Dieu. Et tous les autres sont de faux dieux. Et en réalité, ils n'existent pas. Les hommes les inventent. Les hommes se donnent cette idée. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et Paul explique verset 5, s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il dit, Paul dit, d'autres les appellent des dieux, d'autres croient dans ces dieux, d'autres se font cette idée, et même font des statues. Mais il n'y a aucune réalité spirituelle derrière. Ils peuvent les adorer comme si c'était des dieux, mais en réalité, ils ne sont pas. Ce sont des idées d'hommes, ce sont des fabrications d'hommes, et Paul dit, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il est le seul créateur, il est le seul qui soit là. Il est la seule réalité spirituelle. Pour lui, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les hommes croient, peu importe ce que les hommes fabriquent, nous savons que la seule réalité spirituelle, c'est que le grand Dieu que nous présente, la Bible, est le seul. Il existe en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, bien sûr. Mais il est un. Et il explique très bien en verset 6 que c'est grâce à ce grand Dieu que nous avons le Sauveur. Le Sauveur qui est aussi le Seigneur. C'est-à-dire, il a le droit de nous dire ce que nous devons faire. Il a le droit de nous diriger dans notre vie. Il est le Seigneur. Et il termine verset 6 en disant par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et Paul explique la réalité de la chose. Il dit, certains croient qu'il y a d'autres dieux. Mais ce n'est pas vrai. Ils le croient, ils se les fabriquent, mais ce sont de faux dieux, ce sont même des dieux qui n'existent pas, aucune réalité spirituelle. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est là, au verset 7, où Paul dit, tous ne sont pas arrivés à ce stade de connaissance. Cela est accessible, mais tous ne sont pas encore là. Verset 7. Cette connaissance n'est pas chez tous. C'est-à-dire, tous les chrétiens n'ont pas encore compris tout cela, au moins pour les chrétiens de Corinthe. Souvenons-nous du contexte de Corinthe, des gens sortis de l'idolâtrie, des païens qui avaient grandi dans un contexte complètement idolâtre, avec beaucoup de dieux, avec toutes sortes de pratiques païennes, seul, il fallait du temps. Et certains avaient compris certaines choses, d'autres, peut-être nouvellement convertis, peut-être qui ne s'étaient pas assez penchés sur la question, certains chrétiens ne comprenaient pas que les idoles, les fabrications de l'homme, avec aucune réalité spirituelle. Ils ne comprenaient pas cela. Ils étaient encore attachés au fait que ces dieux étaient vrais. Et Paul dit, oui, cette connaissance n'est pas chez tous. Certains chrétiens avaient besoin de grandir. Mais remarquez, il ne les condamne pas. Il ne dit pas, ces bandes d'idiots, ces bandes chrétiens immatures qui devraient savoir mieux. Non, 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 il dit tout simplement, ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas encore atteint ce stade. Ils devraient, mais il ne les condamne pas, il veut les encourager à grandir, mais il ne les condamne pas. Il continue au verset 7, quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ici, dans ce passage, ainsi que dans Romains, Paul va parler du frère faible, du frère fort, il va parler de la conscience et toutes ces choses. Alors, il faut bien comprendre ce que Paul est en train d'expliquer dans ces versets, parce que toute son argumentation et les principes que nous tirons se basent là-dessus. Alors, regardez quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. Alors, qu'il soit clair, ils croient à une réalité qui n'est pas juste, ce frère faible dans ce passage. Ils croient à quelque chose qui, en fait, n'est pas une réalité spirituelle. Mais pour lui, à cause de sa maturité spirituelle, là où il est, il croit que ces idoles sont encore quelque chose. Mais ce chrétien comprend que tous les chrétiens mangent de la viande et voulant s'associer à ces chrétiens, ils se disent tout le monde le fait, alors moi, je vais le faire. Je veux agir comme les autres chrétiens. Et pourtant, dans son esprit, on l'appelle ici sa conscience, dans sa conviction, il croit que les idoles ont une réalité et que cette viande qui leur est sacrifiée est en réalité quelque chose qui est interdite et qu'il ne doit pas le faire. Mais comme il voit tous les autres chrétiens le faire, sans problème, cette personne se dit, je vais le faire. Même si je lutte encore en moi-même, je vais le faire. Et il dit, leur conscience qui est faible en est souillée. Ils n'ont pas, ces personnes qui sont dans ce cas de figure, n'ont pas la pleine conviction de ce qu'ils font. Alors, qu'il soit clair ici, nous ne sommes pas en train de parler du péché. Parce que certains, prenant ce passage en Corinthiens et le passage dans Romains, ils se sont dit, tant qu'on est entièrement convaincu de quelque chose, nous pouvons le faire. Et il y a des personnes qui sont allées jusqu'au point de dire, même si quelque chose est péché, tant qu'on est convaincu de quelque chose, on peut le faire. Alors, ici en Corinthiens et aussi en Romains, Paul n'est pas du tout en train de parler du péché. Manger des viandes sacrifiées aux idoles n'est pas du tout un péché. La Bible est claire sur ce qui est du péché. Et lorsque la Bible appelle quelque chose péché, le chrétien ne doit jamais le faire. Donc, ici, ce n'est pas une question de péché, mais c'est une question d'avis, de maturité spirituelle. Et Paul dit, les chrétiens qui ont compris que Dieu est la seule réalité spirituelle, ils mangent de tout, sans problème. C'est une viande comme les autres. Et d'autres, qui ne sont pas encore arrivés à ce stade, mais qui veulent agir comme le reste des chrétiens, ils vont manger aussi, mais c'est contre leur propre conscience. Et pour lui, ça, ce n'est pas bien. Et au verset 8, Paul va expliquer que ce n'est pas ce que nous mangeons qui est quelque chose. De manger, de s'abstenir de tel ou tel aliment, ce n'est pas cela qui nous rapproche de Dieu. en ce moment, et depuis quelques années, ben, dans les milieux larges, on va dire chrétiens, tous ceux qui se réclament de la chrétienté, ben, on a mis l'accent sur des régimes, parfois uniquement de légumes, ou uniquement de telle ou telle chose, d'enlever tel ou tel aliment. Bon, d'accord, si ça peut aider la santé, très bien, mais certains ont essayé de dire que la Bible préconise tel ou tel régime. C'est faux. Et certains se sont inspirés de l'exemple de Daniel, d'autres exemples dans la Bible. Peut-être que ces régimes peuvent avoir des bienfaits physiques, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas du tout nutritionniste ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas évaluer les bienfaits de cela. Et peut-être que ça peut aider sur le plan physique. Mais soyons clairs là-dessus, que l'on mange tel ou tel aliment, que l'on ne mange pas, cela n'a aucune influence spirituelle. Qu'on mange uniquement des légumes, comprenez-moi bien, Dieu s'en moque. Ce n'est pas ça qui avance notre spiritualité. Qu'on mange uniquement de la viande, faisons-le, mais ne croyons pas que cela va nous rapprocher de Dieu. Et si quelqu'un d'autre va prendre le choix, va faire le choix de manger que des légumes, de manger que tel ou tel aliment, ou d'avoir un régime spécial, ne croyons pas que cette personne est plus ou moins spirituelle. Non. Et c'était le cas dans l'Église de Corinthe. Certains qui mangeaient de la viande se croyaient plus proches de Dieu et méprisaient ceux qui n'en mangeaient pas. Et ceux qui n'en mangeaient pas, eh bien, se disaient, ces gens sont plus spirituels, il faut être comme eux, alors qu'ils n'étaient pas convaincus, je crois même que c'était une bonne chose. Mais croyant devenir plus spirituel, se rapprocher de Dieu, ils ont fait cette pratique, ils ont mangé cela. Et Paul dit, ce n'est pas du tout une question de spiritualité. Et ceci est valable pour toute chose qui n'est pas péché. Encore une fois, nous ne parlons pas du péché ici. Manger tel ou tel aliment, en soi, n'est pas un péché. Nous pouvons manger de tout. Je vous donne tous les aliments que nous pouvons manger de tout. Certains aliments sont mieux pour le corps que d'autres, bien sûr. Certaines choses sont plus agréables à manger que d'autres. Si vous me posez la question, gâteau au chocolat, les épinards, je vous dis le choix, il est assez vite fait. Je prendrai les épinards. Non, je plaisante. Mais, même si certaines choses sont plus faciles, plus agréables à manger que d'autres, quand on mange du chocolat, qu'on mange des légumes, rien de spirituel là-dedans. Tant que nous prenons avec action de grâce, comme on l'a expliqué. Lorsque nous mangeons et nous reconnaissons que ce que nous mangeons vient de Dieu, c'est ça la question importante. Ce n'est pas l'aliment en lui-même. Et verset 8, Paul l'explique qu'un aliment, ce n'est pas cela qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Nous ne gagnons pas des points spirituels en suivant tel ou tel régime. Et parfois, des personnes pensent cela. Et cela peut aller au-delà des régimes. Parfois, les gens croient gagner des points avec Dieu en faisant telle ou telle chose. Mais ça, c'est un raisonnement humain. Non. Cela va beaucoup plus loin que cela. Et pour les, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Ce n'est pas comme si nous, en s'abstenant de certaines choses, que Dieu va nous enlever des points, que nous sommes moins spirituels. Non. C'est chacun devant Dieu. Et encore une fois, que soyons clairs, je ne veux pas que vous ratiez ceci, nous ne sommes pas en train de parler d'une obéissance, d'une désobéissance envers des commandements de Dieu. Si Dieu nous commande de faire quelque chose, ce n'est pas à nous de décider, ah, je vais le faire ou non, ou pas. Non, non, non. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, il faut le faire. Sinon, c'est du péché. Si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Si nous le faisons, c'est du péché. Mais la question ici n'est pas du péché. Ici, nous parlons des goûts. En ce qui concerne les aliments, en ce qui concerne d'autres choix. Et le problème des Corinthiens, c'était de croire que ces choix de préférence relevaient de la spiritualité. Rapprocher ou éloigner de Dieu. Et pour lui, ce qui me plaît en moi ne vous plaît pas forcément. Les couleurs que moi j'aime ne sont pas les mêmes que les vôtres. Les aliments que moi j'aime ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et cela serait vrai pour chacun. Ce que j'aime écouter, ce que j'aime voir, ce que j'aime faire avec mon temps libre, ne sera pas pareil que ce que vous voulez faire. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de plus spirituel, ou moins spirituel que vous. Non, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est spirituel? Ben, c'est le temps qu'il passe avec Dieu. Et Paul est en train d'expliquer, ce sont des préférences. Mais, au verset 9, Paul va expliquer que, au verset 8, même si nous parlons de préférences, il ne faut pas se centrer sur soi-même en disant, c'est ma préférence, je fais ce que je veux, peu importe ce que les autres croient, ce que les autres pensent, comment cela affecte les autres, peu importe, c'est de toutes les façons ma préférence. Non? Paul dit au verset 9, prenez garde. Attention, pensez quand vous voyez prenez garde, ben, grand panneau, danger, attention, avertissement. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Et Paul est en train d'écrire aux Corinthiens en termes de forts et de faibles. Et il dit, dans l'église de Corinthe, il y a certains qui sont forts. Nous, dans notre esprit, on aurait pensé qu'à Corinthe, il n'y avait que des faibles. C'était tous faibles, ils étaient tous immatures spirituellement. Mais Paul dit, il y a parmi vous quelques-uns qui sont forts, qui savent distinguer, qui sont à un stade de maturité spirituelle plus ou moins avancé, qui peuvent faire ses choix, qui n'ont aucun problème, qui comprennent que Dieu est là et ils font ces choses pour Dieu, ce n'est pas du tout du péché. C'est leur préférence, ok, très bien. Mais Paul explique que tout le monde n'est pas à ce stade. Et si je pense uniquement à moi, je risque de faire beaucoup de mal à mes frères et sœurs en Christ. Et dans les versets qui suivent, je ne sais pas si vous avez été saisis avec la gravité de ce que Paul dit. Parce que Paul dit, admettons qu'on pense à soi-même, on prend ses libertés, on fait ses choix, on suit ses préférences, ses goûts, et on ne pense pas trop aux autres. Paul dit, voici les conséquences de cela. Verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Et en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est grave, n'est-ce pas? On fait périr quelqu'un, et on va expliquer ce qu'on entend par cela dans un instant. On fait périr un frère ou une sœur en Christ et on pêche contre Christ. Y a-t-il quelque chose qui soit plus grave? Vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Si nous nous centrons sur nous-mêmes, et si nous disons, c'est mon choix, je vais le faire, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres vont faire, c'est mon choix, c'est ma vie, devant Dieu, je la vis comme je la veux. Et Paul dit, non, c'est vrai, nous sommes libres en Christ. Nous avons nos goûts, nous avons nos préférences, et nous devrions être libres de suivre ses goûts, ses préférences en ce qui concerne les choses qui ne sont pas péchés. Encore une fois, nous ne parlons pas du péché. Du péché, noir et blanc. Obéissance ou désobéissance envers Dieu. Ici, nous sommes dans le domaine des goûts, des préférences. Et Paul dit, si nous ne pensons pas aux autres, c'est une des choses les plus graves que nous puissions faire. Paul dit, en agissant dans l'orgueil, en ne pensant qu'à nous-mêmes, il va dire, le faible périra par ta connaissance. Alors, malheureusement, certains ont pris ce passage pour dire que les chrétiens, si ils sont dans ce cas de figure, perdraient leur salut. Et ici, quelqu'un, le frère faible, qui aura suivi le frère fort alors qu'il n'est pas du tout convaincu, à ce moment-là, il perdrait son salut. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Non. Ici, lorsque nous parlons de périr, ici, ce n'est pas une question de salut éternel, mais de mauvaises conséquences, dans cette vie, il périra, c'est-à-dire il ne sera plus aussi efficace pour Dieu. Il ne pourra pas avancer pour Dieu comme il devrait. Son témoignage ne sera pas aussi grand que Dieu voudrait qu'il soit. Et Paul dit, c'est un frère pour lequel Christ est mort, et nous, par notre orgueil, par notre égocentrisme, nous empêcherions sa croissance et son engagement pour Dieu. Nous mettrions des obstacles à sa croissance avec Dieu à cause de notre orgueil, à cause de notre égocentrisme. Paul dit, c'est extrêmement grave. Et il continue, il va plus loin, verset 12. En péchant de la sorte contre les frères, en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Pourquoi contre Christ? Parce qu'il est mort pour ces personnes. Parce que c'est lui qui veut les voir avancer. C'est lui qui les a appelés à ce salut et à cet engagement envers lui. Et nous, dans notre orgueil, nous les empêcherions dans cela. Ce n'est pas uniquement contre ces personnes, mais nous les opposons à Dieu. Et c'est extrêmement, extrêmement grave. D'ailleurs, c'est un des seuls endroits dans toute la Bible où il y a cette idée de péché contre Christ. Pour nous montrer que, oui, c'est quelque chose qui est terrible. Et parce que c'est tellement terrible, il nous faut réfléchir, il nous faut évaluer notre vie pour savoir s'il y a des choses que nous faisons de manière parfaitement légitime, suivant nos goûts, nos préférences, nos choix, de penser à comment est-ce que ceci affecte les autres. Est-ce que ceci pourrait faire chuter? Est-ce que ceci pourrait égarer ou affecter d'une mauvaise façon un frère ou une sœur? Se poser la question. Et de dire, comme Paul, verset 13, c'est pourquoi la fin de son raisonnement, la conclusion à laquelle il arrive, si un aliment scandalise mon frère, même si j'ai le droit de le manger, et ici, cet aliment, on pourrait le remplacer par n'importe quoi. Les vêtements qu'on porte, la musique qu'on écoute, les choses qu'on regarde, les endroits que nous fréquentons, tout, encore une fois, et je veux le rappeler, tout ce qui est en dehors du péché. Le péché, nous n'en discutons pas, il ne faut pas le faire. Mais tout ce qui relève des goûts, des préférences, des choix personnels, s'il y a quelque chose que je peux faire de manière légitime devant Dieu, il n'y a pas de problème, mais qu'il serait une pierre d'achoppement envers un frère ou une sœur, pour dire, je ne mangerai jamais de viande, c'est-à-dire je ne le ferai jamais, afin de ne pas scandaliser mon frère. Est-ce que vous voyez l'humilité qui se dégage ici? Alors que Paul, il est totalement dans son droit de dire devant Dieu, je peux faire ceci ou cela, et bien, il va dire, je ne le ferai pas. Je vais me priver de quelque chose pour le bien de mon frère ou de ma sœur en Christ. Au lieu de tout l'orgueil qu'il avait relevé chez les Corinthiens, dans les quelques premiers versets de ce passage, les chrétiens qui mettaient l'accent sur la connaissance, les chrétiens qui se pensaient à eux-mêmes, Paul dit, je vous montre le modèle. Je vais me priver de quelque chose que je peux faire de manière légitime, non pas parce que c'est mal, mais parce que cela va affecter mon frère ou ma sœur. Et on pourrait se poser la question, mais pendant combien de temps? Et pour lui, je ne mangerai plus jamais. Il dit, jusqu'à la fin. Bien sûr, si cette personne arrive à comprendre que telle ou telle chose n'est pas un péché, que la personne avance dans sa spiritualité, dans sa relation avec Dieu, bah à ce moment-là, oui, on peut le faire. Et on peut le faire ensemble, ce frère, cette sœur, et Paul, dit Paul. Mais si cette personne n'arrive jamais à surpasser cette chose, si cette personne n'arrive jamais à la connaissance qu'il faut, connaissance spirituelle qu'il faut, pour comprendre cela, Paul dit, ben, je vais me continuer de me priver pour le bien de mon frère ou de ma sœur. Et c'est ça le principe pour nous aujourd'hui. Question de viande, essayons de mettre cela de côté. Ce n'est pas la viande qui est importante ici. Question d'aliments, non, c'est n'importe quelle chose qui serait un choix préférentiel de ma part, mes goûts, mes choix. Je dois être prêt à mettre cela de côté pour mon frère, pour ma sœur, si je vois que cette personne pourrait chuter à cause de cela, si cela pourrait empêcher cette personne d'avancer avec Dieu. Le problème, c'est que foncièrement, nous sommes des personnes orgueilleuses, n'est-ce pas? Nous pensons à nous-mêmes. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous ne voulons pas nous priver. Dans le fond, nous remontons contre cette idée de se priver de quoi que ce soit. Et notre société nous pousse à faire ce qui nous plaît, n'est-ce pas? Si cela vous plaît, ben faites-le. Peu importe les conséquences, peu importe. Et Paul dit, en tant que chrétien, nous n'avons pas ce droit. Il faut être prêt à se priver de choses légitimes jusqu'à la fin pour notre frère, notre sœur. Est-ce que nous ressentons l'humilité de la part de l'apôtre Paul? Quel exemple pour nous? Et si on devait poser la question à Paul, jusqu'où es-tu prêt à aller pour ton frère ou pour ta sœur? Et Paul aurait dit, jusqu'au bout. Je suis prêt à faire des sacrifices. Jusqu'au bout. Pas pendant quelques heures, pendant quelques jours, mais jusqu'à la fin de ma vie, je suis prêt à me priver, à me sacrifier pour le bien de mes frères et sœurs. Et la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier dans notre vie? Quel choix légitime pourrions-nous faire qui serait peut-être une pierre d'achoppement envers un frère et une sœur? Y a-t-il un domaine dans notre vie où nous faisons un choix, encore une fois, ce n'est pas du tout du péché, mais que nous savons pourrait soit choquer, soit faire chuter quelqu'un d'autre? Est-ce que nous sommes prêts à nous priver pour le bien des autres? Et le plus grand exemple de ceci, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Paul s'inspirait de cet exemple. Jésus-Christ, de manière légitime, aurait pu tout faire. Mais il a choisi de venir sur la terre, il a choisi de se priver de bien des choses, à la fois spirituelles, physiques, pour nous. Son exemple d'humilité, l'exemple de Paul, doivent nous pousser à plus d'humilité les uns envers les autres. Oui, la connaissance enfle, mais c'est cet amour qui se donne et même qui se prive pour les autres. C'est ça qui est essentiel. Et de s'examiner chacun et de se demander, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mes frères et sœurs? Qu'est-ce que moi je peux faire pour que d'autres avancent? Et cela implique que je passe du temps avec mes frères et sœurs, que je les connaisse, que je sais ce qui pourrait leur faire chuter, être une pierre d'achoppement. Et une fois que je le sais, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en mon orgueil en disant, ben, c'est mon choix, personne ne m'apprendra ça? Ou est-ce que je suis prêt à remettre cela entre les mains de Dieu et dire, je vais me priver, je vais faire autre chose pour le bien de mon frère et de ma sœur en Jésus-Christ. Paul voulait montrer aux Corinthiens l'humilité aussi avant le 21e siècle. L'humilité peut nous faire grandir énormément dans le Seigneur, mais c'est un choix personnel que chacun doit faire. Oui, je vais être humble. Je vais agir par amour pour mes frères, pour mes sœurs, en Jésus-Christ, et surtout pour que Dieu soit glorifié pour cela. Prenons ce choix aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous venons devant toi et nous savons que nous avons besoin de ton aide. Ceci ne nous vient pas naturellement. Et avec ton aide, Seigneur, tu peux nous rendre capables d'agir avec humilité, de ne pas penser d'abord à nous-mêmes, mais de penser aux autres, de suivre ton exemple. Et Seigneur, que tu puisses nous remplir. De ton Saint-Esprit nous rendre capables de cela, et Seigneur, que les fruits